Activité 63, 64, 65.
Bonjour à tous, à plus d'un titre est accueilli aujourd'hui à Rochetaillé pour sa troisième étape du prix Ex-Braya. Troisième livre en concours, Pitié pour le mal de Bernard Tirsiaux, paru chez Jean-Claude Lattès. Un livre superbe où les sentiments évoqués ont d'autant plus de force qu'ils sont évoqués avec pudeur. Réalisation technique Christophe de Souza, assistante de l'émission Monique Pacalet. Bonjour à tous, je salue bien sûr Jacques Plaine, bien sûr notre auteur invité Bernard Tirsiaux, et puis la lectrice comédienne Nathalie Ortega qui nous fera le plaisir de nous faire une lecture tout à l'heure. Bernard Tirsiaux lui-même tout à l'heure aussi nous permettra de l'entendre, d'entendre sa voix dans ses mots. Je rappelle qu'aujourd'hui, donc, c'est la troisième étape, n'est-ce pas, Jacques, de ce prix Ex-Braya, que nous avons parmi nous, bien sûr, les organisateurs de ce prix. Donc, Jean-Pierre Duhamel de l'association Souvenir Ex-Braya, Madame Souffon de l'association Les Bonheurs d'Ex-Braya, et puis deux maires ce soir, le maire de Rochetaillé et le maire de Planfoy, dont nous remercions, que nous remercions pour leur présence et pour leur accueil, bien sûr. Alors, Bernard Tirsiaux, vous êtes belge et vous avez une vie quand même un peu hors du commun. On va voir ça avec Jacques Plaine tout de suite.
Oui, alors Bernard Tirsiaux, vous êtes un type extraordinaire. Vous êtes né en Belgique, à Fleurus, dans une maison qui s'appelle Martin Roux. Vous y avez fait des vitraux pendant fort longtemps. Maintenant, vous avez transformé cette maison en théâtre, avec un théâtre de 260 places, un autre de 100 places, qui sont toujours pleins. Donc, et vous avez un parcours extrêmement varié, trois parcours en quelque sorte, un parcours de verrier. Et à ce titre-là, vous venez de temps en temps à Saint-Étienne, puisque votre principal fournisseur, c'est les verreries de Saint-Just. C'était les Verreries de Saint-Just. Vous avez un parcours d'écrivain et un parcours de comédien. Alors, on commence par le parcours de verrier. Vous avez commencé ce métier de verrier à 17 ans.
Oui, dans la petite chapelle qu'a construit mon grand-père, donc dans cette ferme de Martin Roux en 1938, des vitraux avaient été détruits en fin 44, en septembre. Au moment où Mucien s'en va, il s'est passé ça, en fait, parce que je n'ai pas raconté l'histoire véritable, mais il y a eu vraiment une très très grosse destruction de la ferme à cette époque. Et en 68, j'ai eu l'idée d'en mettre des vitraux là-bas. Donc il a fallu que je trouve un artisan qui m'explique, et j'étais un petit gamin têtu comme ça, et puis je m'y suis mis, et ces vitraux sont toujours là. Il y a mes huit premiers vitraux qui sont là, de 68 et en 98, 30 ans après, donc 38, 68, 98, j'ai tout transformé, cette chapelle, je l'ai retournée, et le portail est devenu une rosace.
Voilà. Oui, vous avez commencé à faire des vitraux sans formation à 17 ans, maintenant vous avez fait plus de 500 vitraux, vous en avez fait dans des églises, vous en avez fait dans des mosquées, vous en avez fait dans des casinos, en particulier le casino de Namur, un vitrail à Namur qui fait 60 mètres carrés quand même.
Oui, c'est une course de chevaux, oui. Mais enfin, le casino, vous savez que le casino a été, enfin la roulette en tout cas, a été inventée par un moine, hein. Ah oui. Donc, mon Dieu, l'Église a sa petite part là-dedans.
Alors, votre parcours littéraire, votre premier livre, c'est une pièce de théâtre que vous avez écrite très jeune avec votre frère.
Oui, mon frère qui est aussi écrivain, qui signe sous le nom François Emmanuel, qui a publié une dizaine de romans chez Stock, qui est maintenant au Seuil. C'est assez amusant parce que on a deux écritures, deux univers totalement différents, mais on est tous les deux de l'écriture, et je crois un peu par mon père. J'ai un père qui était un conteur patenté comme ça, qui est toujours en train de, dès qu'on commence à parler avec lui, il raconte une histoire. Oui. Et d'ailleurs, Pitié pour le mal est au départ une histoire qu'on a entendue, mes frères.
Et alors là, on va reparler de cette histoire.
On en parlera
et parce
tout
que
à l'heure,
c'est oui. Vraiment. Le départ est une histoire vraie.
C'est ça, la petite graine qui a germé.
Mais votre premier livre, votre premier roman était un livre sur les verriers,
oui.
Qui a eu plusieurs prix, dont le prix de la ville de Metz, l'été du livre à Metz. Et ce livre, lorsque vous êtes venu un jour à la verrerie de Saint-Just, vous êtes aperçu que tous les verriers l'avaient lu.
Oui, ils l'avaient. Ils m'ont fait d'ailleurs des cadeaux. Oui, j'étais vraiment accueilli comme un roi. J'arrivais là par hasard avec quelqu'un et ils m'ont donné un canon de bleu, un bleu qui est très proche du bleu de Chartres parce que ils obtiennent cette couleur quand la brume se pose sur la cheminée de la verrerie. Donc c'est une question d'humidité de l'air, de pression atmosphérique qui fait qu'on attrape cette couleur. Extraordinaire. Il y en a un qui m'a donné une canne, donc je suis rentré avec mes cadeaux. Et en fait, ils ont pris ce livre un peu pour eux, comme une sorte de viatique. Ça leur a donné du cœur au ventre. Quoi.
Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en tant que verrier, quand vous travaillez le verre, vous avez 700 couleurs de verre différentes à votre disposition.
Oui, des verres de Saint-Just, des verres allemands, j'ai des verres qui viennent d'un peu partout, mais j'ai une très belle palette. Donc ça veut dire que, par exemple, hein, si on pense au rouge, au bleu, 700, ça fait chaque fois 60-70 tons différents dans lesquels je vais choisir le ton précis, puisque hein, ce n'est pas comme la peinture à l'huile où on mélange ces tons, là on va les choisir.
Alors, avant d'être écrivain, parce que si on voulait en parler toute votre vie, on parlerait pas du livre, mais avant d'être écrivain de romans, vous avez été écrivain de chansons, et tout à l'heure, vous m'avez promis qu'après l'émission, vous en chanteriez une. Vous avez écrit une chanson, et vous avez écrit 60 chansons, vous avez fait des CD. Vous dites des disques et pas des CD.
Mais c'est-à-dire que j'ai d'abord commencé avec des vinyles, et en Belgique, c'est moi qui ai fait le dernier 45 tours. Le jour où ça a disparu de la circulation, j'ai téléchargé, donc j'en ai peut-être vendu deux. mais j'ai fait des CD après. Et ici, dernièrement, on a fait un très beau travail que j'aurais pu amener, hein, de CD autour de comme, la musique du verre. Donc ça fait des années aussi que je travaille sur des instruments en verre, les sonorités du verre, avec une musicienne. Le chant, la harpe, et voilà, ça donne des... Et oui, c'est très beau, parce que la lumière chante, le verre chante, mais le verre a aussi son propre chant. Hein.
Oui. Alors, en deux mots, le théâtre. Donc, vous avez écrit 8 pièces de théâtre qui sont jouées. Vous avez donc ce théâtre... qui est votre théâtre, vos deux théâtres. Alors vous avez inventé un truc formidable, c'est que vous avez les deux théâtres qui fonctionnent en même temps, l'un pour les enfants, pendant que les parents... Alors, le petit théâtre de sang pour les enfants, avec des pièces et du cinéma pour eux, pendant que les parents vont dans l'autre théâtre pour des pièces plus sérieuses.
C'est-à-dire qu'on a dû trouver des tas d'astuces pour avoir les publics.
Parce que vous
n'êtes
pas subventionné.
On n'est pas subventionné, c'est un théâtre privé. Mais qui est tout le temps plein, et en Belgique, tout le monde le connaît, et tout le monde vient dans ce lieu, parce qu'il est très beau. C'est une grande ferme carrée, qui est complètement aménagée, et je l'ai fait moi-même pendant des années, j'ai travaillé, j'ai récupéré des matériaux, mais j'ai toujours fait ça en donnant une seconde vie aux matériaux, et avec, je crois, beaucoup de soin, de goût, quoi. Je n'ai pas du carton, des portes, comme on peut voir dans...
Alors vous m'avez dit que la dernière pierre de votre théâtre, vous l'avez fait poser par un comédien qui est venu, l'a fait du livre de Saint-Étienne, Julius Bocard, et qui est tout petit, et vous aviez fait l'emplacement pour mettre la pierre, il ne pouvait pas y atteindre.
À ma taille, oui. J'ai dû me mettre derrière lui pour l'aider à la hisser et la mettre dans le trou. Oui, mais c'est un homme adorable et que je vois encore souvent, on est très amis.
Alors, un tout petit mot sur le jour extraordinaire où vous avez vu par hasard votre père à la télévision en train de couper un ruban.
Je vous racontais ça tout à l'heure. En fait, en Belgique, il y a toujours eu des bagarres entre Wallons et Flamands. Et les Wallons ont toujours été très débonnaires, acceptant ce qui leur arrivait, comme ça. Et un jour, on a chassé les Wallons de Louvain, la ville universitaire de Louvain, en leur disant de rebâtir une ville dans les champs. Et personne ne s'est vraiment opposé, sauf mon père, qui à l'occasion de l'inauguration de l'autoroute Wallonie, quand il a vu le ministre flamand qui était responsable de ce déménagement, il lui a pris les ciseaux des mains et il les a brandis au public en disant « N'y a-t-il pas un Wallon pour couper ce ruban à la place d'un de ceux qui sabotent l'unité du pays ?» Et comme personne n'a répondu, il a coupé le ruban et il s'est fait embarquer. Et moi, au collège, j'ai vu apparaître une mauvaise photo d'identité de mon père, qui a une tête terrible, à l'écran, en disant « un perturbateur a empêché le ministre de Zagre d'inaugurer l'autoroute ».
Vous m'avez dit aussi que votre père, tout dernièrement, venait de reprendre ses études à l'université.
Oui, il s'est inscrit en faculté de philosophie pour terminer sa thèse de doctorat. Et quand la femme, un peu surprise, lui a demandé son âge, il a répondu à cette femme « L'âge de faire une thèse, madame. » Je relis ton histoire. Elle est tout autre. Elle commence à 13 ans. À bâbord l'impardonné, à tribord l'impardonnable. Tu colmates les voies d'eau d'un voilier sans équipage. Tu sillonnes les mers à l'affût d'un phare brisé, d'un port assiégé, d'une embarcation en détresse. Tu pourrais cabrioler avec le vent, mais il y a la charge d'âme en soute. Elle pèse sur l'eau, sur tes épaules, t'accable et tu as mal. Tu fus frappé en tes jeunes années et cela t'a ouvert des yeux trop grands sur les détresses du monde. Comme Gaillard et son grand charroi, tu vas obstinément ta route sans chercher où elle mène. Vous êtes géants tous les deux, de beaux et fragiles géants soumis au fouet de la vie. Aujourd'hui, m'indiffère que vous soyez vivant ou mort, vous êtes en moi, vous ne me quittez pas.
Merci beaucoup Bernard Tertio pour cette lecture, et je serais tenté de dire aussi pour ce texte très beau, qui se trouve à la fin du livre, plutôt à la fin du livre on va dire, et qui en fait donne une idée du thème du roman, qui est un peu un écho entre le passé et le présent, et qui est essentiellement l'histoire de deux frères, très jeunes, 8 ans le narrateur, et 13 ans le grand frère que vous venez d'évoquer dans ce passage, qui vont se retrouver dans la tourmente de la débâcle allemande de la Deuxième Guerre mondiale, et qui vont comme ça quitter la Belgique pour aller justement en Allemagne. Entre autres, à la poursuite de ce fameux cheval Gaillard, un cheval de trait magnifique, un champion que le grand garçon ne peut se résoudre à laisser aux Allemands. Alors comment cette idée a germé ? Vous parliez tout à l'heure du petit grain qui a fait naître l'histoire.
Mais oui, c'est une histoire qui a été maintes fois racontée dans ma famille par mon père. Donc effectivement, fin août 1944, ma grand-mère avait perdu son mari un an plus tôt. Et une colonne d'Allemands des routes s'est arrêtée dans la ferme et est partie avec les chevaux, 28 chevaux en fait. Et c'est une histoire qui s'est terminée un peu en queue de poisson. J'ai bien une tante qui a suivi la colonne sur 2-3 kilomètres jusqu'au village voisin, mais elle est rentrée en pleurant et ses chevaux étaient perdus. Et moi, j'ai toujours regretté... J'ai toujours regretté que ça n'ait pas été plus loin. En fait, très souvent, les histoires de guerre, elles se situent d'un côté, elles se situent de l'autre côté. Et la détresse, elle a été des deux côtés, en fait. Et depuis quelques années, je suis beaucoup en Allemagne. J'ai beaucoup d'amis allemands. Hein, j'ai même écrit un roman là-bas. Et j'ai toujours été très sensible au fait que cette blessure de guerre ne s'est toujours pas refermée. C'est-à-dire que ce grand peuple qu'est l'Allemagne, hein, qui nous a donné de merveilleux poètes, philosophes, musiciens, nous a, oui c'est ça, est toujours blessé de nous avoir donné des barbares Et donc il y a cela qui était très présent. Je me dis, pourquoi pas rentrer dans ce pays? Et je vais rentrer dans ce pays avec mes petits bons hommes, mes deux petits hommes, là, hein, Mucien et Belot, en fin de guerre. Et je raconte en fait un conte, mais un conte qui se boucle d'ailleurs, qui est une belle boucle, qui est lui-même enfermé dans une histoire qui ne se boucle pas ou qui s'ouvre. Il y a deux histoires, il y a 50 ans plus tôt et 50 ans après, quoi.
Alors, il faut dire aussi que tout repose sur la personnalité des deux garçons qui est relue par le narrateur, donc Abel, Belot, comme on l'appelait quand il était petit, qui sont issus d'une famille nombreuse, 9 enfants, très chrétienne. Ça a des conséquences sur le plus petit, qui est toujours hanté par l'idée de ne pas s'être confessé, par exemple. Et puis un frère extrêmement différent, le plus grand, dont on oublie et dont on a peine à penser parfois qu'il a seulement 14 ans, seulement 13-14 ans.
Oui, qui est une tête brûlée, oui. Mais il se tient, je veux dire, à 13-14 ans, je ne vais pas dire que j'étais comme ça, mais je vois autour de moi des enfants de 13-14 ans qui sont des déterminés. Et alors, il y a aussi le fait que, bon, ils se mettent à la suite de... Ils se mettent derrière cette colonne... Et puis à un moment donné, l'irréparable est fait. Ils sont passés de l'autre côté. Ils sont en pays ennemi. Et là, ils ne peuvent pas s'en tirer tout seuls. Et il va y avoir cet Allemand qui les prend en sympathie et qui va finalement être une sorte d'ange gardien, de protecteur, et qui leur fait des promesses, qui tiendra à moitié d'ailleurs, enfin, qui leur a du mal à tenir parce que bon, la débâcle est difficile et... Et il y a aussi un tel poids de souffrance de leur côté qu'ils se sentent vraiment aussi perdants. Hein.
Alors dans ce convoi allemand, il y a tout type d'hommes. Il y a l'officier qui commande, qui est obnubilé par son devoir et qui fait les choses très bien, enfin les choses mal comme les choses bien, toujours avec guidé par ce sens du devoir. Il y a Gunther. Celui que vous venez d'évoquer, et puis il y en a d'autres qui correspondent mais finalement à la palette humaine. Et on est au-delà de la barrière ennemi-ami.
Oui, on est dans l'humain. Et je trouve que c'est ça qui devient intéressant, parce que, bon, de remettre toujours les choses à l'échelle des nations ou des... Bon, c'est un peu aussi les enfermer d'une certaine manière. Mais revenir à l'humain, c'est revenir au tendre, c'est revenir à la fragilité, c'est revenir, hein, c'est cet homme qui doit rentrer chez lui, mais cet homme aussi, on a vendu son piano, il était pianiste parce que...
Voilà, tous ces soldats rentrent chez eux. Et le fameux officier, d'ailleurs, fait ça très bien parce qu'il a à cœur d'accompagner, de faire accompagner chaque soldat qui rentre chez lui parce qu'il va être confronté au drame individuel qu'est la guerre. Hein. Quand on voit, avec les médias, on parle souvent du drame collectif, mais il y a bien sûr tous les drames individuels.
Oui, et c'était très fort aussi en Allemagne, si vous voulez. Les femmes ont vraiment pris le pouvoir, les hommes étant absents. Et moi, j'ai rencontré notamment, c'est un ami allemand qui disait, mon père est rentré en 48, et il n'a plus sa place, quoi. Les femmes ont pris complètement le pouvoir et pendant toute sa vie, il était poussé d'un coin à l'autre de la maison. C'est-à-dire qu'il n'était plus personne. Et lui a dû vivre avec ça et il a dû résoudre un peu ce problème-là qui était un des grands problèmes de sa vie d'homme. Oui.
Alors, moi j'ai beaucoup aimé votre livre, Bernard Tirsiaux, je dois le dire, entre autres justement à cause de l'écriture qui fait rentrer dans les personnages, dans ce qu'ils ressentent, parfois dans les non-dits, justement, qui sont vécus, et que vous réussissez à faire vivre les silences, à faire parler les silences. Et qui fait que chacun de ces personnages nous pose aussi à nous des questions, aujourd'hui, en 2006. On peut aussi se projeter dans ce qu'ils ont vécu, ça aurait pu être l'un d'entre nous. Face à ce mal.
J'espère, oui. Enfin, j'espère. J'ai besoin de ce regard, en tout cas, de ce regard sur le monde. Je suis fatigué, moi, des images de violence, en fait. Donc, je cherche par tous les moyens d'autres regards.